Voilà, bonjour à tous. C'est encore avec grande joie que je viens participer à cette journée, retrouver les frères et sœurs, l'Église, notre frère Joël, sa petite famille. Voilà. Donc, je vous propose ce matin de faire un voyage. Vous voulez faire des voyages, vous voulez aller en Israël, là, hein. Bon, moi, je ne vous propose pas d'aller en Israël, quoique si, un peu dans la région, enfin, la grande région. Voilà, on va lire, ça va apparaître donc sur l'écran, acte 27, et peut-être on va lire un peu plus haut, verset 13. Alors, c'est, j'allais dire, presque une... une inauguration, oui, dans un certain sens, c'est qu'il y a un petit diaporama. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, on me l'a fait. Hein. Moi, je ne suis pas encore trop technique. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont comme moi. Hein. Ils ne sont pas encore très techniques dans ce domaine-là, mais j'ai pensé que ça enrichissait, ça nous aidait à mieux comprendre. Donc, je vous propose un grand voyage. Le voyage, bien sûr, il n'y a qu'un grand voyage. En réalité, ce n'est pas en Israël. C'est le grand voyage de la vie chrétienne. Hein. La vie chrétienne, c'est un grand voyage. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, il faut arriver au port. Il y a un départ et il y a une arrivée, hein, en toute chose. Ce grand voyage, en somme, c'est un petit peu une vision globale. On a besoin à la fois d'avoir dans l'Écriture et dans notre vie chrétienne, une vision globale, mais nous nous apercevons qu'elle est progressive. C'est ce qu'on va découvrir ce matin. Il y a un commencement, il y a une arrivée, il y a une progression, mais il faut garder toujours une vision globale. Alors, on va voir cela. Pour l'instant, on est dans Acte 27, 13. Acte 27, 13. Donc, nous sommes en bateau, dans un bateau, et il y a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il n'est pas seul. Il y a 276 passagers. Ah oui, il y a plus de monde que nous ce matin. Et ils sont partis. Donc, ce voyage, c'est de Jérusalem à Rome. Mais là, ils vont être sur la mer. Ils sont dans un bateau. Paul est dans une situation de prisonnier. Il est dans les chaînes, il dira. Il va à Rome, parce que le Seigneur l'a conduit à aller à Rome pour rendre témoignage. Il faut que tu ailles à Rome et rendre témoignage. Vous savez que Dieu a appelé Paul, Saul de Tarse, qui était, à rendre témoignage, et il lui a dit, tu rendras témoignage devant les grands, devant les rois, les maîtres, César. Donc, il a une mission et il est confiant que malgré cette mission périlleuse, eh bien, il atteindra le but et c'est ce qui se passera. Un jour, il pourra dire en vainqueur, j'ai achevé la course, hein, je suis arrivé au port. Et c'est ce que le Seigneur souhaite et désire pour chacun d'entre nous, que nous achevions la course du Seigneur, bien sûr, et que nous atteignions le port, le royaume de Dieu. En attendant, nous sommes dans un bateau et le vent est léger, un vent léger du sud vint à souffler, se croyant maître de leur dessein, de leur projet, bien sûr, disant, oh, c'est un petit vent. Ici, à Martigues, comme nous à Marignane, le vent, on connaît, hein, des fois ça souffle léger. Hein, j'étais inquiet pour jeudi, je disais, oh là là, si le vent souffle trop fort, on ne va pas pouvoir se réunir. Ça va, il y avait un vent léger. J'ai même pris le soleil, vous voyez, j'en ai des restes. Hein. Je suis sensible au soleil. Un petit vent léger, bon, ça, tout va bien. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et déjà, on est bien dans la mer. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc la situation, elle n'est pas brillante. Hein. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, on y lança de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Là, SOS, hein ? On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu m'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera ainsi, comme il me l'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Alors, dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Amen. Comme je vous disais, la vie chrétienne, c'est un grand voyage. Nous sommes tous dans le bateau. Vous êtes dans le bateau ? L'Église, c'est un bateau, hein ? Allez, on va faire un bateau. Et Dieu, dans son amour, veut que ce voyage, eh bien, réussisse. Je pensais à Abraham et j'avais lu cette parole d'Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils. Vous vous rappelez de cela ? Et il a dit à son serviteur ces paroles ainsi. L'Éternel enverra son ange avec toi, mon serviteur, et il fera réussir ton voyage. Moi, je pense que notre voyage, il est programmé pour la réussite. Pas programmé pour couler, pour être mangé par les poissons, hein, même si on ne sait pas nager. Notre programme, c'est de réussir cette vie chrétienne et d'atteindre le but. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du voyage du pèlerin de John Bunyan. Ça, c'est les anciens qui connaissaient cela. Et il passe par toutes sortes d'étapes, comme nous. Hein. Toutes sortes de situations. Et le tout, c'est d'atteindre, bien sûr, le but. Alors, Paul a connu... Ça a été un grand voyageur, hein, puisqu'il a fait 3 grands voyages missionnaires. Là, c'est le 4e, il va à Rome, c'est le dernier voyage, mais c'est le dernier voyage qui va le conduire devant César et aussi plus tard, quelques années après, au martyr. En attendant, Dieu a fait réussir son voyage. Alors, il a été, c'est vrai, très, très, très mouvementé. Hein, quand on regarde l'écriture, la navigation devenait dangereuse, un vent léger, après c'est un vent impétueux, et puis il arrive un moment où il ne contrôle plus rien. Pour sauver la situation, eh bien, il jette, la cargaison, voilà, je cherchais la cargaison, ils ont ceint le navire, mais ils ont perdu même toute espérance d'être sauvés. Donc la situation est dramatique, mais le Seigneur est fidèle, il a dit à Paul eh bien, qu'il doit aller à Rome rendre témoignage, donc l'ange vient le rassurer, lui dire, eh bien, même si vous perdrez le navire, tu iras à Rome et tu rendras témoignage pour moi. » Alors la situation est comme ça, ils ont peur à un moment donné eh bien, de heurter des écueils, c'est-à-dire des rochers. Alors ils ont jeté, pour stabiliser le bateau, ils ont jeté 4 ancres de la poupe en attendant le jour. Nous, en somme, nous sommes un peu dans cette situation. Nous attendons un jour aussi, hein. Nous attendons le jour. Lequel jour vous attendez ? Le jour, il y a des gens, ils attendent la retraite, ils attendent ceci. Des fois, certains, ils n'attendent plus rien, n'est-ce pas ? Mais nous, nous attendons, nous sommes des gens, nous avons un but, un cap, notre voyage. Nous savons qu'à la fin, c'est le jour du Seigneur. Nous attendons le jour, le grand jour. Alors, on ne sait pas quand ce jour sera, viendra. Personne ne peut dire le jour, l'heure, le moment, l'année. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait des pronostics, ils ont donné des dates, même des gens de milieu évangélique. Hein, j'ai entendu des gens qui ont écrit des livres, ils ont eu soi-disant des révélations, des inspirations, des transpirations peut-être, hein, je ne sais pas, mais ils ont eu « Ah, le Seigneur vient !» Non, non, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous devons être un peu comme ces gens, cette situation de Paul. Ils attendaient le jour, comment ? Avec impatience. Ils attendaient le jour du salut, ils attendaient le jour de la délivrance. Parce que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés en espérance, en attendant le jour de la rédemption. Il y a des gens, ils attendent la fin du monde, ils attendent ceci, comme je disais. Mais nous, nous attendons le jour de la rédemption, parce que ce jour-là, c'est le jour de gloire, parce que nous serons, nous, poussière mortelle, rhumatismale et tout, transformés un corps de gloire, semblable au Seigneur. Nous le verrons face à face. C'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la victoire. Ce qui nous donne de la force pour surmonter l'adversité aujourd'hui, c'est la perspective de la gloire du Seigneur, que nous serons avec lui dans son royaume. En attendant le jour, eh bien, ce matin, il faut stabiliser le bateau. Ah, parce qu'il bouge le bateau, hein. Il faut le stabiliser. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette image intéressante. Ils ont jeté 4 ancres. Et ce matin, je voudrais vous parler de ces 4 ancres. Alors, on ne peut pas les détailler chacune à fond, mais c'est pour vous donner surtout une vision globale et une vision progressive. Parce qu'en réalité, il ne suffira pas, certains pourraient dire ce matin, « Ah, mais j'ai jeté telle ancre », d'autres diront, « Mais moi aussi, 2, 3 ». Non, non, ce matin, il faut les 4 ancres pour que nous soyons stabilisés. 4, c'est le symbole de quelque chose de solide. 3 pieds, c'est pas mal, mais il vaut mieux 4. Je vois que vous, vous êtes assis sur des chaises à 4 pieds, hein. Ça, c'est la stabilité. 4 évangiles, 4. On trouve souvent dans la parole de Dieu ce chiffre 4 qui nous montre eh bien, la stabilité. Et la stabilité, c'est quelque chose d'important dans ce monde où tout bouge. Quand vous êtes dans un bateau, ça bouge, ça tangue. Vous avez remarqué qu'ils n'arrivaient plus à contrôler la chose. Ils avaient peur, ils ont dit « ça y est, on va échouer ». Eh bien, nous, nous ne voulons pas faire naufrage. Dans la Bible, il est parlé d'Alexandre et Hyménée. Ils ont fait naufrage parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Et cela les a conduits à abandonner la foi. Donc, vous voyez que même dans l'Écriture, il est parlé de gens qui ont fait naufrage. Nous ne voulons pas faire naufrage. Nous voulons, au contraire, stabiliser notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas être des gens emportés à tout vent, des vents contraires, des vents de doctrine, des vents de ceci. Il y a toutes sortes de choses. La première ancre qui est capitale, fondamentale, que rien ne peut remplacer, premièrement, la première ancre, c'est notre vie personnelle avec le Seigneur. Je pense que ça va apparaître. Voilà. Tout commence là. Alors j'espère que tout le monde a commencé. Et même si ce matin, vous n'avez pas eu encore cette rencontre personnelle avec le Seigneur, eh bien, il n'est pas trop tard de jeter la première ancre. Parce que votre vie, vous allez être comme ce bateau, emporté, il ne contrôlait plus rien. Et peut-être certains, ce matin, disent, mais ma vie, mon foyer, ma maison, je ne contrôle plus rien, n'est-ce pas ? Je suis emporté. Dieu ne nous a pas appelés à être emportés, mais il nous a appelés à être comme le bateau de Paul dans lequel il était, stabilisé. Et la première ancre qu'il faut jeter, c'est l'ancre d'une relation personnelle avec le Seigneur. Nous l'avons rencontré, alléluia. Et cette ancre, dit l'Écriture, elle pénètre au-delà du voile, parce que c'est Jésus-Christ qui, notre ancre à nous, elle n'est pas fondée sur le fond de la mer. Elle rentre dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous, alléluia. Cette relation personnelle nous lie, eh bien, à Jésus, puisque c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Maître, c'est à lui que nous appartenons. Cette ancre, c'est notre communion personnelle avec le Seigneur. La Bible dit qu'un jour, nous avons commencé avec le Seigneur une relation personnelle, intime, profonde, et c'est cette rencontre. Alors peut-être que cette rencontre, un peu comme Paul, s'est faite, lui, sur le chemin de Damas, elle a été brutale, hein, mais il en avait besoin d'être arrêté, hein. Il dira, mais qu'est-ce que c'est, mais qui es-tu? Je suis Jésus. La révélation de la personne du Seigneur Jésus. J'espère que nous tous, nous avons rencontré Jésus, hein. Que le Seigneur s'est révélé à notre... Qui es-tu? Je suis Jésus. Tout commence là, hein, quand le Seigneur se révèle à notre cœur. Le voile se déchire, nos yeux s'ouvrent, notre vie est transformée. On commence une vie avec le Seigneur qui doit continuer, persévérer dans la relation continuelle avec le Seigneur. Parce que pour nous, c'est une rencontre personnelle, mais elle doit être continuelle. Chaque jour, nous sommes appelés à rencontrer le Seigneur. Tout commence là, c'est la base. Souvent, nous n'allons pas plus loin parce qu'au départ, il n'y a pas cette ancre qui est solidement, eh bien, posée dans notre vie. Le Seigneur nous dit toujours, il l'a dit dans sa parole, dans l'évangile de Matthieu, il dit, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur la place publique, n'est-ce pas? Tu vas faire le tour, tu fais une grande réunion. Non. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est-à-dire, on a traduit secret, mais en réalité, ça veut dire le lieu le plus intime, voyez, le lieu le plus intime, où les gens, les autres ne rentrent pas. Quand on va chez quelqu'un, il vous fait rentrer dans le hall d'entrée, le vestibule, peut-être il ira un peu mieux, il vous fera rentrer dans la salle à manger, il vous fera asseoir sur le fauteuil. Bon, alors, pour entrer dans la cuisine, déjà, c'est là, tout le monde ne peut pas être dans la cuisine. Hein, et dans la chambre, un peu moins, n'est-ce pas, dans le coin intime. Mais avec le Seigneur, c'est une relation intime, personnelle, face à face. Tous les hommes de Dieu, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, ils ont eu cette rencontre personnelle. Mais il faut entretenir cette relation intime avec le Seigneur, dans le lieu secret. Parce que le Seigneur, il se tient dans le lieu secret. Avant d'avoir une vie extérieure, il faut avoir cette vie intérieure. Paul disait justement à son fils spirituel, à Timothée, il lui dit, mais il est appelé au service, à l'enseignement, mais premièrement, il lui dit, veille sur toi-même. Le commencement, c'est ton cœur. Et l'Écriture dit, mais c'est du cœur que viennent les sources de la vie, c'est ton cœur. C'est la vie intime avec le Seigneur. Comment connaissait Moïse le Seigneur? Il le connaissait face à face. Intime. Il n'y avait pas d'intermédiaire dans l'ancienne alliance. Certains ont connu le Seigneur au travers d'intermédiaires. Nous, autrefois, on pensait connaître Dieu, mais au travers de la religion, au travers d'un homme, on allait consulter l'homme pour Dieu. Même nous, nous ne sommes pas des, entre guillemets, nous avons notre service dans l'Église. Mais nous ne sommes pas des médiateurs entre Dieu et les hommes d'une certaine manière, parce que nous avons cette idée religieuse, il faut s'adresser à un homme qui s'adresse à Dieu. Non, nous avons, j'aimerais vous dire, vous avez une relation, une ligne directe avec le Seigneur. Ah, si vous voulez téléphoner à l'Élysée, vous n'avez pas la relation directe, là. Là, vous passerez par la secrétaire, le machin, et encore. Mais avec le Seigneur, vous pouvez avoir une relation directe. Vous vous trouvez dans le bureau du Seigneur, ou du moins le Seigneur vient dans votre lieu intime. Hein. Une relation directe, de cœur à cœur, de face à face. Et quand Moïse est descendu de ce moment où il a eu ce face à face, ce tête à tête, et vous savez, chaque jour, frères et sœurs, c'est la base de notre vie progressive. Il nous faut quoi ? Un face à face avec le Seigneur. Un moment d'intimité où on ouvre son cœur, on dit tout au Seigneur. Parce que j'aime bien ce petit chant qui dit « Dis tout à Jésus ». Hein ? Nous, on dit tout sur le réseau. Moi, je vois un peu dans ma famille, des fois, dès qu'il se passe un événement, tous les réseaux, les machins, tout le monde. Moi, je ne suis pas trop... Vous avez tout compris, hein ? Je suis un peu allergique. Mais non. Relation directe. Connectez-vous au ciel. Hein ? Soyez connectés. Et je dirais même, nous sommes connectés naturellement, notre vie avec le Seigneur. Je venais ce matin, j'étais dans ma voiture, mais c'était déjà le petit temple dans la voiture. Hein. J'ai parlé au Seigneur, hein, de vous et de moi. Et c'est mutuel, c'est une relation. Veille sur toi-même, sur ton cœur, parce que c'est de lui seul que vient la source de la vie. Et si la source, c'est une source de vie, alors toute ta vie, tout le reste sera béni. Il connaissait le Seigneur face à face. Donc, je le répéterai encore, c'est là notre base fondamentale. Dans le monde, sur les bateaux, sur la mer de ce monde, vous aurez des tribulations, des tempêtes, ça va tanguer, oui. Mais en moi, dit le Seigneur, hein, c'est le même verset, vous aurez dans le monde, oui, on est encore dans le monde, mais ça, c'est le monde qui nous entoure. Mais en moi, dans sa sphère à lui, en moi, vous aurez la paix. En moi, vous aurez la stabilité. En moi, vous aurez la vie et la force. Car notre communion est avec le Père et avec son Fils par le Saint-Esprit, qui chaque jour, eh bien, nous donne d'être renouvelé. Vous avez remarqué, j'arrête avec cette vie personnelle, Jean, l'apôtre Jean. Quand même, c'est l'apôtre fidèle. C'est lui qui était encore à la croix. Les autres avaient abandonné. Hein, il a même vendu les apôtres, les intimes. Ils étaient depuis 3 ans avec Jésus, quand même. Ils ont partagé son ministère, ses miracles. Ils ont été dans son intimité. Mais quand même, Jean, le disciple du cœur, de l'amour, celui qui avait penché sa tête sur la poitrine de Jésus, il entendait battre le cœur du Seigneur. Hein. Ah, il était prêt. Hein. Et vous avez remarqué Pierre, à un moment donné, au repas, il a fait signe à Jean de demander qui allait le trahir. Vous voyez, donc il lui fallait un intermédiaire. Dit Jean, toi qui es près de Jésus, là, demande-lui, donne-moi l'information. Mais Jean, il n'avait pas besoin parce que lui, il était cœur à cœur avec Jésus. Frères et sœurs, le succès, la bénédiction, la réussite, la stabilité, la force de notre vie chrétienne et notre relation personnelle, et rien ne pourra le remplacer. Rien ne pourra le remplacer. Vous pourrez aller dans toutes les églises de la terre, vous pourrez avoir les meilleurs pasteurs comme nous. Pardon, qu'est-ce que je dis là ? Vous pourrez avoir tout. Rien ne peut remplacer votre relation personnelle avec le Seigneur. Faites bien attention à ça. Vous pouvez passer par les moments les plus durs de votre vie. Durs de votre vie. Mais si vous avez cette relation personnelle, vous tiendrez bon. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas fini. La deuxième encre. Ah, la deuxième encre. Bien sûr, on commence, mais il faut aller plus loin. Ils ont jeté 4 ancres. Donc c'est bien, vous allez me dire, ah ben moi je vis avec le Seigneur, tout va bien. Non, ce n'est pas suffisant. La deuxième ancre pour stabiliser le bateau, c'est notre vie familiale. la conséquence de notre vie personnelle nous amène à la vie familiale. La vie familiale, c'est important. Regardez Noé, qu'est-ce qu'il a fait Noé? Il n'a pas dit, je fais mon arche pour me sauver, les autres, ma famille. Non. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Deuxième point, l'objectif, c'est sauver notre famille. C'est-à-dire, c'est pas nous qui la sauvons, comprenez bien, mais nous contribuons au salut des nôtres. On travaille au salut des nôtres. C'est la mission que le Seigneur nous donne, hein, d'amener les autres. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Il a fait entrer 8 personnes dans l'arche, alléluia, et les animaux aussi, hein, mais 8 personnes. Alors que Lot, le Seigneur l'a sauvé, oui, il a été sauvé. Il est sorti de Sodome et Gomorre. Mais quand il a parlé à ces gens ont dit, beau père, on ne t'écoute pas, tu racontes. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit, c'est une plaisanterie. Peut-être parce que Lot, ce que je dis, c'est relatif, hein, n'était pas très sérieux non plus. Hein. Parce que lui, qu'est-ce qu'il pensait, Lot? Oh, les plaines de Sodome, hein. Alors qu'Abraham, ben, il prendra le reste, il prendra la montagne. Hein. Lui, il cherche son intérêt. On le retrouve aux portes de Sodome, il est notable. Ouais, mais quelle catastrophe, il doit fuir. Dieu envoie de ses anges pour le faire sortir de Sodome. Alors les gens, ils ont dit non, on ne sort pas. Sa femme, il a parlé à sa femme, bon, elle a accepté, les filles, ils ont accepté. Mais la femme, en chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a regardé en arrière. Parce qu'en réalité, elle était sortie de Sodome parce qu'il y avait les anges, parce qu'il y avait son mari, parce qu'on lui dit. Mais en réalité, Sodome n'était jamais sortie de son cœur. On peut sortir du monde, mais garder toujours dans son cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été transformée en statue de sel. Ses filles sont allées plus loin. Mais quoi? Vous savez, elles ont commis inceste, elles ont produit du fruit empoisonné. Alors, en fin de compte, on le retrouve tout seul, ce Lot. C'est comme un échec, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Alors qu'Abraham, eh bien, lui, il a amené la bénédiction, il a été lui-même béni et source de bénédiction, et même il est source de bénédiction pour nous. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Hein, le geôlier, ça c'est une belle question. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, crois au Seigneur Jésus, parce que c'est la foi, la base, la relation avec le Seigneur, tout ce que nous recevons de lui. La base, c'est la grâce et la foi. Hein. C'est plus la loi. Christ est la fin de la loi, bien que nous ne soyons pas sans loi, puisque maintenant nous sommes sous la loi de Christ. Hein. Et la loi de Christ, elle est encore plus exigeante que la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse, c'est une loi de mort, alors que la loi de Christ, c'est une loi de vie et d'amour et de grâce qui nous donne de vivre. Mais en attendant, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est... Et c'est même valable pour ta famille. Vous voyez, le geôlier, Paul lui dit, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ta famille, elle est là, hein. Tu vas devenir, toi, le geôlier, une bénédiction. Et il s'est réjoui avec sa famille d'avoir cru en Dieu. Le salut est personnel, mais il influence notre famille. Il bénit notre famille. Et nous prions pour notre famille. Nous sommes des témoins de notre famille. Et nous amenons notre famille au Seigneur. Et puis, c'est valable pour les cousins, c'est valable pour les tantes, c'est valable pour les oncles. Des fois, on pense qu'à ses enfants. Mais Dieu nous donne sa grâce. Donc la vision, ce n'est pas simplement le salut personnel, une vie personnelle avec le Seigneur. On a jeté une ancre, on va jeter une deuxième ancre, la vie de famille, afin que notre maison, comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, il a cette vision. Ce n'est pas simplement moi, mais c'est ma famille que je réclame au Seigneur. Je prie pour ma famille, j'entoure ma famille. D'ailleurs, il y a le verset que le frère avait cité avant le culte, qui écrit là, hein, tu lis mes notes maintenant, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est un infidèle. Donc notre devoir, bien sûr l'amour du Seigneur remplit notre cœur, c'est d'aimer notre famille, de gagner notre famille et de la faire rentrer elle aussi dans le royaume de Dieu. Alors prenez courage, hein, même si vous avez des enfants, même si vous avez des parents, un mari, il est dit que la femme doit gagner son mari par sa manière de vivre, pas en lui faisant un sermon tous les jours au petit déjeuner, alors quand est-ce que tu te convertis, tu n'es pas venu aux réunions, et l'enfer, et oulala, non. Au contraire, faites-lui un bon petit déjeuner. Hein. Les meilleures épouses et les meilleurs époux, c'est les chrétiens, hein. C'est comme ça. Et justement, des fois, on me dit, ça tangue dans le foyer, il y a des... Oui, ça peut tendre, mais ça, c'est la vieille nature, justement. C'est le vieil homme, c'est qu'il faut sortir de cela. Si tu as, toi, le mari et la femme, une relation personnelle avec le Seigneur, on ne peut que se retrouver. On ne peut. Notre lien, puisqu'il est deux, notre lien, c'est le Seigneur. Donc il fait son miracle dans nos vies, c'est lui qui nous unit et nous sommes une seule chair devant le Seigneur. La solution, c'est d'avoir cette communion personnelle et intime et renouvelée avec le Seigneur. Ainsi notre famille sera bénie. Mais ce n'est pas suffisant, vous avez jeté 2 ans, qu'il en reste encore 2 autres. À la troisième, elle va apparaître. La vie d'église. J'ai fait faire ce petit dessin en mettant bien, vous voyez, la vie personnelle au cœur, au centre. Et du centre, on va vers l'extérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'un dépend de l'autre. L'un est lié à l'autre. Tout se lie ensemble. Ne faisons pas trop de détails, ne coupons pas les choses, mais lions tout. Tout est, c'est un tout, voilà. La vie d'église, est-ce que vous avez une église? Mais vous êtes l'église, hein? C'est pas le bâtiment, hein? Le bâtiment il est joli, mais c'est pas le bâtiment, c'est nous qui sommes l'église. Quand le Seigneur nous a sauvés, acte 2, 47, il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Vous êtes l'église et vous faites partie de l'église. Vous êtes un membre du corps de Christ. Vous appartenez au Seigneur. Et les membres, il vaut mieux, ils sont utiles. Hein? Si je n'avais pas les mains, je ne ferais pas tous ces gestes. Si je n'avais pas les pieds, je n'aurais pas pu venir là. Tous les membres sont utiles. Tous les membres travaillent ensemble sous le gouvernement de la tête. La tête, c'est Christ, hein, bien sûr. Hein, la tête, c'est Christ. Hein. La tête, c'est le Seigneur, parce que c'est lui qui doit diriger. Des fois, il y a un conflit. Moi, des fois, j'ai un conflit entre la tête et l'estomac. Vous n'avez pas de conflit? Aïe, aïe, aïe. Surtout, bon, là, je déraille, hein, mais excusez-moi. Au moment des gâteaux. Hein. Je suis papy gâteau. Bon, voilà, allez. Redevenons sérieux. Oui, des fois, il y a un conflit entre la tête et... Alors, la tête, elle dit, bon, c'est comme ça, tu dois marcher ça. Et l'estomac, il dit, encore un peu, peut-être un petit truc, vous voyez, l'estomac. Non, non, c'est la tête qui gouverne. Nous sommes tous sous la gouvernance de Jésus-Christ. C'est lui la pensée, c'est lui la direction. Et ainsi, le corps fonctionne bien. L'Église, aujourd'hui, il y a des tendances, en Amérique et ailleurs, où on dit, ah ben, on n'a plus besoin d'Église, hein. Ah ben, maintenant, j'ai le culte sur Internet. Oui, je reviens encore à charge. C'est bien si vous êtes malade, si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est bien de s'édifier, peut-être par ce moyen-là, il y a toutes sortes... Mais... Ça, ce n'est que l'exception. On ne peut pas avoir... Est-ce que vous avez communion fraternelle avec votre écran? Ah, je te parle. Ah oui, pasteur, écoute. Non, non, vous entendez, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas communion. Vous n'avez pas relation. C'est une relation platonique. Parce qu'il y a même un danger, j'ai pensé à ça. Vous voyez, ici, vous êtes obligé par politesse de rester jusqu'à la fin du culte. Hein. Vous êtes obligé de m'écouter, là, hein, hein. Ah, obligé. vous partez pas, hein, vous restez. Même si ça vous plaît pas, des fois, on dit, ah, mais le pasteur, il a dit des trucs. Pas ici, mais ailleurs, des fois, il y a des gens, ils disent, ah, mais aujourd'hui, ça m'a pas plu, ou ça me dérange. Mais c'est bien que ça vous dérange. C'est bien que ça vous chatouille. C'est bien que ça vous remue. Aujourd'hui, on a la maladie de vouloir entendre des choses agréables qui plaisent. Alors, le piège par Internet, vous écoutez ce prédicateur, moi, ça m'est arrivé une fois. Oh, c'est pas bien. Allez, clac. Ah, celui-là, vous prenez que ce qui vous voulez, qui vous intéresse. C'est comme si vous arriviez à manger à midi, même si ça ne me plaît pas, ben, je mangerai quand même. Hein, hein. Je me rappelle, j'étais invité une fois, j'aime pas trop les concombres. Hein. Et chaque fois, j'avais droit aux concombres. Mais je les ai mangés quand même. Hein. Et ici, vous mangez. Et voyez, il y a parfois des subtilités, des astuces. Alors, prenez bien tout, ne rejetez pas. Il faut tout prendre de la parole. On s'édifie. Le Seigneur nous a donné à l'Église, nous faisons partie de l'Église, nous sommes membres de l'Église, nous soutenons l'Église, nous prions pour l'Église, nous sommes un corps, n'est-ce pas ? Le chrétien ne peut vivre seul. Qu'est-ce que vous pensez si on vous avait mis au monde et puis on dit « Ah, oh, le beau bébé, il est magnifique, allez !» Et puis on le met dans une pièce, on reviendra le voir quand il aura 3 ans. Hein ? C'est des brouilles, hein ? Il vit, ah, oh, il a la vie, oui. Mais il faut l'aider à vivre. Et nous, on ne peut pas vivre sans Église. Ça, c'est un piège, c'est une subtilité de l'ennemi de nos âmes. J'ai entendu des chrétiens à Marseille, même on les connaît, dire « Oh, ben maintenant, on vit notre vie chrétienne chez nous, faut plus il va y avoir la persécution, alors chacun chez soi, on vit. » Non, c'est pas biblique, n'est-ce pas ? L'Église est une réalité. Je dépends de l'Église. Il y a des ministères, par exemple, l'Écriture dit, le Seigneur les a donnés à qui ? À l'Église. Donc, c'est pas seul, c'est pas individuel. Tu n'as pas reçu... Oui, il a donné à chacun, mais il a donné... À l'Église, des ministères, des dons, etc. C'est à l'Église. C'est pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas seul, je ne peux pas dire. Il ne me l'a pas donné pour moi, il me l'a donné justement pour les autres au travers de moi. Et ça s'exerce, ce que dit l'Écriture, n'abandonnez pas vos assemblées, mais on peut dire littéralement, c'est rassemblement. Nos rassemblements. Alors, il y a des rassemblements le dimanche matin, il y a des rassemblements dimanche après-midi, 15h30 pour cet après-midi, que je ne sois pas seul. Et il y a des rassemblements, oui, c'est la communion fraternelle dans l'Église. Et ça, c'est une réalité. On a besoin, parce que je vois souvent... C'est en partageant, en communiant, en s'exhortant. D'ailleurs, combien de fois dans l'Écriture, je l'ai dit, je crois, n'est-ce pas, il est fait au moins 100 fois mention les uns les autres dans l'Écriture, ou la pensée des uns et des autres. Et il est quand même dit plus de 16 fois, aimez-vous les uns et les autres. Ça, c'est le cœur, bien sûr, hein. Aimez-vous les uns et les autres. Donc, nos assemblées. À Antioche, ils se rassemblaient aux assemblées de l'Église. L'Église, ça s'assemblait. Bien sûr, après, justement, on ne tombe pas dans des formes, des heures. Ça, le Seigneur n'a pas institué, heureusement, des formes, des heures. Mais c'est le principe de la communion fraternelle. Alors, c'est indispensable pour que nous puissions grandir. Parce que le but, c'est que l'enfant, tout seul, il puisse grandir. Et il a besoin de ses parents, il a besoin d'être entouré, il a besoin de la chaleur spirituelle. Persévérer dans la communion fraternelle. J'avais donné le psaume 133, je disais, il est magnifique, hein, ce psaume. Et je vais essayer de le approfondir encore, mais qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères... Hein, de demeurer ensemble. Et ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, il parlait de l'huile et de la rosée, on a parlé un peu de rosée, mais c'est là, au milieu, ensemble, que le Seigneur envoie la vie, la bénédiction. C'est une bénédiction d'être ensemble. Ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, tous ensemble au portique de Salomon pour en témoigner. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, mais pour le Seigneur. Hein. Vous ne trompez pas de rassemblement. Hein. C'est deux ou trois sont assemblés, ils s'accordent ensemble. Ça, c'est la base. Trois, vous allez me dire, ben maintenant, avec trois ancres, j'ai stabilisé ma vie chrétienne, mon bateau, il ne va pas sombrer, je peux attendre le jour. Non, il faut la quatrième ancre. La quatrième ancre. Alors, elle va arriver dans le monde. Eh oui. Vous avez bien remarqué, tout commence par une relation personnelle qui bénit notre famille, qui bénit l'Église et qui va bénir le monde. Témoin dans le monde, c'est un peu le but, l'objectif. Jésus a dit, vous serez mes témoins dans le monde. Vous allez commencer à Jérusalem, après vous serez en Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités du monde. Donc avant de servir à aller jusqu'aux extrémités, il faut, si nous voulons avoir une influence sur le monde, il faut d'abord commencer par le commencement dans notre vie personnelle. Puisque le Seigneur a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, simplement de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en moi, vous aurez la paix. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce que nous avons reçu une mission. Et dans la prière de Jésus devant le Père, vous voyez, dans cette prière intime, le chapitre 17 de Jean, vous devez connaître, c'est bien de le lire ce chapitre. Il faut lire toute la parole, bien sûr. Mais ce chapitre 17, on voit le cœur de Jésus pour nous, hein, parce qu'il a prié pour nous, ce que tu m'as donné. Et il dit ceci à la fin, chapitre 17, verset 18, la prière sacerdotale, la prière du prêtre, la prière de Jésus pour nous, pour chacun d'entre nous. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie à Istres. Je les envoie dans le monde. Notre influence dans le monde, notre témoignage dans le monde, nos fruits dans le monde, pour gagner le monde, il faut que tout commence par cette vie personnelle, familiale, vie d'église et vie dans le monde. Ainsi, toutes nos sources sont dans le Seigneur. Si nous voulons être la lumière qui brille à Istres, dans cette région, eh bien, tout dépend de la lumière d'abord qui brille dans mon cœur. Ainsi, on va pouvoir mettre la dernière, je crois, ou l'avant-dernière, pour montrer les ronds. Voilà, ça y est, j'ai bien aimé ça, cette image. Vie personnelle, elle est partie, mes ancres sont parties. Ça y est, sont revenus, je suis sauvé. Vie familiale, vie de l'Église et vie dans le monde, la lumière du monde, Jésus l'a été, mais nous le sommes, le sel de la terre, nous le sommes, le témoignage, nous le sommes, le but, c'est que justement le plus grand nombre soit sauvé avant que le jour du Seigneur vienne, et il va venir bientôt. J'espère que ça a été clair, que vous avez bien compris, que vous avez bien jeté vos quatre ancres, que maintenant, plus rien ne va vous déstabiliser et que vous allez être solide et que quand le jour va venir, eh bien, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur. Alors, bon courage. Paul n'a pas fait naufrage, mais il a atteint le but, il a atteint Rome. Nous aussi, nous ne ferons pas naufrage, mais nous atteindrons le royaume de Dieu. Alors, bon courage à tous. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour ton amour, ta fidélité et l'appel que tu nous as adressé à te connaître personnellement, vivre avec toi, Seigneur, afin que nous puissions bénir notre famille et qu'elle soit bénie au travers de notre relation avec toi, Seigneur, afin que cette famille soit une bénédiction pour l'Église, alléluia, que cette Église soit composée de familles solides, ancrées en toi, qui sont remplies de ta vie, de ton amour, de ton esprit, afin que nous allions dans le monde, Seigneur, pour être cette lumière, ce sel de la terre, cette évangélisation, pour porter ton nom, afin que beaucoup d'hommes et de femmes soient sauvés et gagnés, afin que ton Église grandisse et qu'elle rayonne, qu'elle porte du fruit, que nous soyons vraiment tes témoins, tes ambassadeurs, la bonne odeur de Christ dans ce monde, une lettre lue et connue de tous. Alors bénis chacun ce matin, Seigneur. Remplis-nous de toi, de ton amour, de ta force, et que ces quatre ancres nous stabilisent les uns les autres, car rien ne pourra nous faire broncher, et que nous serons debout quand tu vas revenir. À ton nom soit toute la gloire, la louange et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.